France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Voilà plusieurs mois qu'elle symbolise la résistance des Ukrainiens face à l'envahisseur russe. Et ce matin, Kiev affirme que des combats se poursuivent toujours et encore à Pokrovsk, cette ville stratégique dont la Russie avait pourtant assuré s'être emparée la veille. On se rendra à Beyrouth, où le pape Léon XIV concluait ce matin son voyage par une messe en plein air. En France, la méthode Lecornu comprenait le pari de la négociation résistante a-t-elle à l'épreuve du budget de la Sécu. Le PLFSS revient cet après-midi en deuxième lecture à l'Assemblée et dans le même temps, le Premier ministre poursuit ses consultations. Aujourd'hui, ce sera au tour des écologistes. Avec notre invité aujourd'hui, Julien Sanchez, eurodéputé Rassemblement National, on se projettera dans les élections municipales. Enfin, on parlera de la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'une fusée. Quelles sont les vraies intentions de l'administration américaine au sujet du plan de paix en Ukraine qu'elle a récemment proposé et qui demeure sujet à discussion? Ce plan est-il le fruit d'une stratégie de la Maison-Blanche, répondre aux visions maximalistes de la Russie pour s'assurer les faveurs d'un possible futur partenaire en affaires, à l'heure où les Européens espèrent que l'administration Trump, soupçonnée de complaisance vis-à-vis du Kremlin, ne sacrifiera pas l'Ukraine, considérée comme un rempart face aux ambitions russes? Tous les yeux seront rivés aujourd'hui sur Moscou, l'envoyé spécial Steve Witkoff, accompagné du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, doivent y rencontrer aujourd'hui Vladimir Poutine pour des discussions sur les moyens possibles de mettre fin à la guerre. Et nul doute que dans ce contexte, Moscou ne manquera pas de faire valoir la prise hier de la ville de Pokrovsk, une cité à la position stratégique de premier plan, une prise qui, si elle venait toutefois à être confirmée par Kiev, compliquerait considérablement le ravitaillement de ses militaires ailleurs sur le front, tout en offrant aux soldats de l'envahisseur un tremplin pour avancer vers l'ouest. Sauf que, pour l'heure, l'Ukraine dément cette prise de guerre. Boris Loumagne, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Les autorités ukrainiennes affirment au contraire que les combats se poursuivent sur place.
Oui, il y a deux batailles qui se déroulent actuellement à Pokrovsk. La bataille sur le terrain, acharnée et qui dure depuis des mois. Et puis, il y a la bataille de l'information. Moscou affirme donc que son armée contrôle la totalité de Pokrovsk. Une vidéo publiée hier soir montre des soldats russes paradant dans le centre de la ville. Mais de son côté, l'armée ukrainienne rétorque ce matin que les combats continuent sur place. La situation est difficile, reconnaît Kiev, mais Pokrovsk n'est pas encerclé par les Russes. C'est également ce que nous disent deux officiers ukrainiens présents sur place et que nous avons pu contacter ce matin.
Alors on a bien compris qu'il fallait prendre les dernières déclarations de Moscou avec prudence, d'autant que la Russie, Boris, est coutumière du fait.
Oui, il y a encore quelques jours, la Russie a revendiqué la prise de la ville de Mirnograd. Mais quelques heures plus tard, on s'apercevait qu'en réalité, il n'en était rien. En fait, la stratégie de Moscou est simple. Vladimir Poutine doit se montrer conquérant pour peser sur les négociations de paix, pour peser aussi sur la diplomatie américaine qui considère désormais que la victoire de la Russie sur le terrain n'est qu'une question de temps. Et ce n'est donc pas pour rien que la revendication de la prise de Pokrovsk intervient quelques heures avant la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le président russe.
Merci Boris Loumagne, correspondant de France Culture en Ukraine avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques.
Jusqu'à quel point l'ombre menaçante de Donald Trump est-elle susceptible de s'étendre sur l'Amérique latine?
Après avoir interféré dans la campagne argentine, après avoir fait pression sur les élections conviées dimanche dernier au Honduras afin de favoriser la victoire du candidat qui soutiendra ses politiques dans la région, le locataire de la Maison-Blanche continue à multiplier les faits d'ingérence. Deux jours après avoir décrété que l'espace aérien du Venezuela devait être considéré comme totalement fermé, Donald Trump n'a pas encore répondu directement à la question de savoir s'il envisageait une potentielle intervention terrestre de l'armée, quoi qu'il en soit. Voilà plusieurs mois maintenant que les États-Unis ont considérablement renforcé leur présence militaire en mer des Caraïbes au nom de la lutte contre le narcotrafic, tout en accusant le régime de Caracas de diriger un cartel de la drogue. Même si c'est sans doute dans les mains d'un autre Américain, toujours le président des États-Unis, justement Donald Trump, que se joue en partie aujourd'hui l'avenir guerre du Liban. Le pape Léon XIV a lui aussi bien l'intention d'y jouer son rôle, hier déjà sur la place des martyrs à Beyrouth. Le souverain pontife s'est fait l'écho de la quête incessante de paix au Moyen-Orient en prononçant un discours consacré à l'espérance, le tout au milieu d'une rencontre œcuménique rassemblant les principaux chefs religieux du pays du Cèdre. Et ce matin, c'est accueilli avec ferveur par des dizaines de milliers de personnes que le pape présidait cette fois-ci une messe en plein air à laquelle assistait notre envoyé spécial à Beyrouth, Bruno Duvic.
Léon XIV remonte en papa mobile fermé les allées au milieu de la foule. Laetitia a 17 ans.
C'est vraiment un sentiment très profond et très touchant, en tout cas en tant que Libanaise, de voir toute ma patrie réunie autour d'une belle messe comme celle-ci.
Au nom de Père et de Fils et de Saint-Esprit.
Pascal est arrivé autour de 7 heures du matin.
C'est un moment de grand espoir. On est là vraiment pour prier pour ce Liban. Parce que moi, je suis née durant la guerre, j'ai vécu toutes les guerres du Liban. Et je ne voulais pas que mes filles le vivent aussi. Mais malheureusement, elles l'ont vécu.
Interrogé sur les effets de la visite du pape, sans déclaration marquante à l'intention d'Israël depuis le Liban, sans passage symbolique dans le sud du pays régulièrement bombardé, Pascal répond « Il n'y a pas de miracle, mais nous y croyons quand même ». Dans son homélie, Léon XIV fait un nouvel éloge de la petitesse face à des chrétiens libanais qui aspirent à la paix.
« Les petites lumières qui brillent dans la nuit » Nous pouvons les voir nous aussi, ici aussi, aujourd'hui aussi.
Avant cette célébration, il s'est recueilli tout près sur les lieux de l'explosion sur le port de Beyrouth il y a 5 ans. Moment poignant avec les proches de victimes qui tendaient une photo de leurs disparus.
Midi passé de 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Dotés de capacités cognitives hors normes, les rats sont pourtant généralement mal vus dans la cité, peut-être pour leurs dents tranchantes ou leur museau pointu. C'est probablement ce qui a conduit le mouvement patronal éthique présidé par Sophie de Menton à déposer plainte contre Sophie Binet pour injure publique après que la secrétaire générale de la CGT eut comparé des grands patrons menaçant de délocaliser à des rats qui quittent le navire. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce matin, chez nos confrères de France Inter, la leader de la CGT a donc annoncé sa mise en examen, une procédure en réalité quasi automatique en cas de plainte pour injure publique. Et à la faveur de cette révélation, vous vous êtes rendu compte, Wafia, que son cas n'était pas isolé.
Une criminalisation de l'action syndicale que la CGT dénonce depuis plusieurs mois. Des plaintes contre des délégués syndicaux se sont multipliées ces derniers mois. Gérard Rey n'est pas surpris. Le secrétaire général de la CGT constate un durcissement et une judiciarisation des rapports sociaux.
Et effectivement, moi aussi, je suis sous le coup d'une mise en examen pour diffamation face à un employeur qui a porté plainte contre moi parce que j'ai osé dire qu'il utilisait des travailleurs sans papier, ce qui est exact.
Des plaintes qui s'inscrivent selon le syndicaliste, dans une ambiance plus générale où les procédures contre les militants syndicaux dans les entreprises se multiplient. D'après la CGT, 1000 syndicalistes auraient été sanctionnés par leur entreprise ou poursuivis depuis 2023.
On a des militants syndicaux qui sont sous le coup de répression quasiment tous les jours. Par ailleurs, par rapport à Sophie Binet et le bureau confédéral, c'est la 5e membre du bureau confédéral qui est sous le coup d'une procédure. Effectivement, on sent qu'il y a une accentuation de la répression à l'égard des militants syndicaux, mais également des militants dans les mouvements sociaux et écologiques, puisque demain, se tiendra le procès à Poitiers par rapport aux mégabassinats.
Lors de leur procès à Poitiers demain, ces militants seront jugés pour organisation d'une manifestation illégale. Ils risquent jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Merci Wafia Kenich.
Bientôt la fin du suspense.
À partir de cet après-midi, les députés seront de nouveau appelés à plancher définitivement sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à l'avenir toutefois encore très incertain. De multiples compromis restent en effet à trouver pour le gouvernement, à gauche, sans perdre pour autant sa droite, or qu'il s'agisse de la réforme des retraites, du gel des minima sociaux, d'une surtaxe sur les mutuelle ou bien encore l'élargissement du périmètre des franchises médicales. Les sujets explosifs, c'est vrai, ne manquent pas. Alors un premier vote sur la partie recette est attendu dans la semaine, puis le vote sur l'ensemble du texte mardi prochain. Une adoption serait évidemment une victoire majeure pour Sébastien Lecornu, en même temps qu'elle enclencherait une dynamique positive pour le budget de l'État, sans doute encore plus clivant. En revanche, un rejet serait un désaveu cinglant de la méthode gouvernementale. Pour l'heure, tout indique que LFI et l'Alliance RN-UDR voteront contre. Ce qui signifie que pour que ce budget soit adopté, il faudrait que les groupes de la coalition gouvernementale l'approuvent et qu'au minimum le PS vote pour et que les écologistes s'abstiennent. Adrien Touffelet, bonjour.
Bonjour.
On l'a compris, l'équation semble encore difficile à résoudre pour rassembler donc des voix de groupe aussi antagonistes, d'où les réunions organisées à Matignon après les socialistes, après les communistes. Hier, Sébastien Lecornu recevra cet après-midi les écologistes, lesquels entendent bien à leur tour, Adrien, faire entendre leur voix.
Oui, et plus l'on se rapproche de la fin des délais pour voter le budget, plus la place des écologistes se veut décisive, car vous l'avez dit, en raison des équilibres politiques, un vote contre des écologistes entraînerait automatiquement le rejet du budget. En théorie, les Verts devrait donc être au centre de toutes les attentions du Premier ministre. Néanmoins, jusqu'à présent, ça n'a jamais été véritablement le cas. À chaque fois qu'elles ont été reçues à Matignon, Marine Tondelier comme Cyrielle Chatelain en sont sorties au pire outrées par les échanges, au mieux déçues par un Sébastien Lecornu qui écoute, mais ne fait rien d'autre. Alors aujourd'hui, il faut que ce soit différent, estime sans grand espoir toutefois le chef des écologistes au Sénat, Guillaume Gontard, qui sera reçu tout à l'heure à Matignon. Il sait ce que l'on veut, plaide-t-il, à savoir en priorité éviter au secteur de la santé, à l'hôpital public, une cure d'austérité, des recettes supplémentaires pour un souci de justice fiscale et de rééquilibrage des comptes, et enfin, l'engagement que tous les progrès obtenus ne soient pas détricotés plus tard à coup de décret. Mais lui, que veut-il? Qu'est-ce qu'il attend de nous? S'interroge encore le sénateur. Pour l'heure, en tout cas, l'heure n'est plus à l'écoute. Pour les écologistes, que ce soit sur le PLF ou le PLFSS, Sébastien Lecornu doit affirmer sa ligne politique et celle de son camp, sortir de son rôle d'observateur et faire un choix clair, assume Guillaume Gontard, pour qui les débats l'ont démontré ces dernières semaines. Il n'y a pas de compromis possible à la fois avec la gauche et les Républicains. Sous-entendu, le Premier ministre doit choisir entre les deux. Autrement dit, dans un cas comme dans l'autre, en raison des équilibres politiques à l'Assemblée, le budget semble bel et bien invotable.
Merci Adrien Touffelet.
À un peu plus de 100 jours des élections municipales, le Rassemblement National a le vent en poupe.
Et il en profite pour poser d'ores et déjà ses conditions. Les candidats sans étiquette dans les petites communes qui voudraient bénéficier de son appui, mais sans afficher le logo du parti à la flamme sur leurs affiches, devront montrer patte blanche, en clair, appliquer les fondamentaux du programme d'extrême droite sur la sécurité, la fiscalité, mais pas seulement, puisqu'ils devront également promettre de soutenir le candidat du RN en 2027. Alors, cohérence ou chantage? Pour le savoir, Nicolas Ballu a rencontré l'eurodéputé Julien Sanchez, par ailleurs directeur de campagne du Rassemblement National pour les municipales. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Julien Sanchez, quelle serait par exemple la différence entre un maire RN et un maire qui ne l'est pas, mais qui est soutenu par le RN? Aucune?
Non, aucune. C'est-à-dire que, en fait, un candidat RN investi aujourd'hui, c'est bien souvent qu'il est adhérent du Rassemblement National. Donc, il est militant, adhérent, engagé politiquement avec l'étiquette et qu'il n'a pas de problème à afficher l'étiquette. En revanche, on sait que chez beaucoup d'élus locaux, ils ne souhaitent pas afficher d'étiquette partisane de manière visible. Mais certains nous disent, voilà, nous, on aimerait quand même montrer qu'on vous soutient ou que vous nous soutenez. Mais on veut pas dire qu'on est candidat RN parce que nous, on a des électeurs de toutes tendances, mais on est prêt à être soutenu par le député ou soutenu par le RN.
L'enjeu, c'est aussi les sénatoriales, l'implantation au Sénat, avoir un groupe, en quelque sorte, une notabilisation.
C'est pas seulement ça. Je pense que aujourd'hui, on est quand même absent du Sénat. On a que quelques sénateurs et pas de groupe politique. C'est quand même problématique parce que quand on défend nos textes à l'Assemblée nationale et qu'ensuite ils vont en seconde lecture au Sénat et qu'on n'a pas de groupe et qu'on n'a pas les moyens de travailler correctement, ça pose question pour un parti qui est le premier parti de France. Donc ce qu'on dit aux électeurs, c'est oui, vous votez pour un maire. Mais il ne faut pas oublier que ce maire, il a aussi un rôle national, puisqu'il vote en tant que grand électeur pour les sénateurs, et qu'on a besoin de sénateurs aussi. Donc, regardez aussi cet aspect-là quand vous votez, et dites-vous que, voilà, un maire socialiste, il va voter pour un sénateur socialiste. Un maire macroniste, il votera pour un sénateur macroniste. Et donc, attention, parce que vous pouvez trouver votre maire sympa, mais derrière, politiquement, il défend peut-être des idées qui sont aux antipodes de ce en quoi vous croyez.
Donc, l'enjeu, c'est aussi d'avoir un groupe au Sénat, un groupe RN au Sénat. Autre enjeu, et c'est clairement inscrit dans la charte, c'est celle des parrainages. Oui. C'est histoire de moins galérer, en quelque sorte, si on peut dire, pour la prochaine présidentielle.
Oui, alors je pense qu'on galérera moins, comme vous dites, parce que bon, déjà aujourd'hui on a plus de 100 députés, on a quand même une trentaine de députés européens, donc on a quand même maintenant beaucoup plus d'élus RN, et donc notre vivier de grands électeurs et de parrains pour la présidentielle est plus important. Mais je pense que c'est important d'avoir encore plus de parrainage que les 500, et il est important aussi que chacun s'engage, hein, donc les élus locaux aussi doivent s'engager. Je pense qu'aujourd'hui l'heure est grave sur beaucoup de sujets dans le pays, et que chacun doit s'engager.
Combien de parlementaires RN vont s'engager pour ces municipales ?
Alors vraisemblablement sur les 150 parlementaires RN en comptant le Parlement européen et l'Assemblée nationale, il y aura entre 30 et 40 parlementaires qui seront tête de liste aux élections municipales. C'est pas un choix de confort pour eux, hein, parce que c'est parfois plus confortable d'être parlementaire que d'être maire, qui est un mandat très astreignant, très difficile. Donc voilà, c'est un choix courageux de leur part.
Justement, pourquoi inciter les députés ou les eurodéputés RN à s'engager pour les municipales, même là où le RN, disons-le, n'a aucune chance de gagner?
Je pense qu'il faut qu'on soit présent et représenté, notamment dans les grandes villes, parce que on a toujours été très faible dans les grandes villes, mais je pense que on était très faible parce que on n'avait pas de candidats qui avaient une notoriété, on n'avait pas de gens qui étaient des spécialistes de la politique et qui étaient élus dans d'autres assemblées, qui savaient comment ça fonctionnait. Et je pense que c'est important d'avoir ce type d'élus, et pour expliquer à la population quelles sont nos positions, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, on est quand même assez absent. Voilà.
Ça veut dire que l'objectif, plus encore que le gain de certaines villes, c'est la visibilité ?
Il y a les deux. Je pense que d'abord, l'objectif, c'est de gagner, évidemment. Maintenant, on va pas gagner toutes les villes où on est candidat, c'est sûr. Donc, dans ce cas, c'est effectivement exprimer nos positionnements politiques locaux, comme on le fait à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, avant, on avait zéro député, enfin un ou deux. Donc, personne ne savait ce qu'on pensait. Là, aujourd'hui, on nous voit à la télévision, on voit les débats, on sait ce que pense le groupe RN. Après, on est d'accord ou pas d'accord. Mais au niveau local, là, aujourd'hui, on est absent. Donc, c'est pareil. Les gens se disent, bon, on sait pas ce qu'ils pensent, en fait. Et là, maintenant, on saura ce qu'on pense dans nos villes. Quelles seront nos politiques locales, nos points de vue, c'est ça qui est important aussi.
L'an dernier, Jordan Bardella affirmait ne pas vouloir de candidat avec un casier judiciaire, ça n'est plus le cas aujourd'hui ?
Je crois qu'il y a un cas uniquement qui est soulevé, c'est le cas d'un candidat en Corse qui a, je crois, défoncé la porte d'un bâtiment public quand il avait 18 ans. Donc voilà, est-ce qu'il doit payer jusqu'à ses 100 ans le fait d'avoir défoncé la porte d'un bâtiment public ? Je crois qu'il a été condamné, il a purgé sa peine. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de réconcilier les Corses avec le continent, de leur montrer que on vit les mêmes problèmes, c'est pas la France qui fait du mal à la Corse, c'est ceux qui dirigent la France qui font du mal à la Corse. Et donc, il est important aujourd'hui de travailler tous ensemble pour que, justement, on défende les particularismes régionaux, les identités régionales, parce que défendre les identités régionales, c'est défendre l'identité nationale, parce que c'est une partie de l'identité nationale. Et ça, c'est vrai que le Rassemblement national, à l'époque, ne le faisait pas suffisamment. Il y avait une vision très jacobine, et je pense qu'aujourd'hui, il est important, au contraire, de mettre en avant les identités régionales, parce que ça fait partie de l'identité nationale.
C'est une condamnation pour terrorisme.
Oui, il a défoncé la porte d'un bâtiment public et donc nous le condamnons et nous ne sommes pas d'accord avec ce type d'acte ou de comportement. Normalement, il me semble que quand on a purgé sa peine, on doit pouvoir avoir le droit de me remener une vie normale. Encore une fois, je ne tiendrais pas le même discours s'il avait tué quelqu'un.
Merci.
Julien Sanchez, donc directeur de campagne du Rassemblement National pour les municipales, il répondait à Nicolas Ballu.
Enfin, pour terminer ce journal, direction la base de Kourou en Guyane, reconnue coupable par la justice de destruction d'espèces protégées.
Oui, après des travaux réalisés sans autorisation, le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, se voit reprocher des atteintes illicites à la conservation d'un habitat naturel. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
L'agence spatiale a été condamnée à réparer le préjudice écologique et à mettre en place des mesures compensatoires dans un délai de 3 ans.
Oui, mais pas de peine d'amende, 0 euro, alors que selon nos confrères du site Reporter, l'agence spatiale risquait jusqu'à 750 000 euros d'amende pour avoir porté atteinte à des espèces protégées et leurs habitats dans le cadre de travaux non autorisés sur le site de Kourou en Guyane. Kourou, c'est l'endroit où sont lancées les fusées Ariane. Des travaux sur deux sites ont été réalisés en 2022, la réfection du pas de tir nommé Diamant et l'aménagement d'un parc photovoltaïque. Ces travaux menés donc sans autorisation par le CNES ont provoqué la destruction de l'habitat d'au moins 4 espèces protégées, surtout celle d'une grenouille rarissime, le Leptodactyle ocellé. Le CNES a été reconnu coupable des destructions d'espèces protégées dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, une sorte de plaidé coupable à la française. Mais au final, la faiblesse de la peine prononcée fait bondir le coordinateur de Guyane Nature Environnement, partie civile, dans ce dossier, car on parle là d'infractions intentionnelles avec pour conséquence des dommages gravissimes sur des espèces menacées, fait valoir l'ONG. Les préjudices environnementaux ont tout de même été évalués à presque 10 millions d'euros. Et la restauration des milieux impactés ne pourra pas se faire avant plusieurs décennies. Le Centre national d'études spatiales a été condamné à remettre le site en état, le site Diamant, d'ici 3 ans, sauf que ce site est aujourd'hui totalement artificialisé, perdu pour toute biodiversité. C'est pourquoi Guyane Nature Environnement plaide pour une requalification des faits en écocide et un renvoi en correctionnel.
Merci Véronique Robérot. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec le retour du soleil par la Bretagne. Ciel humide en revanche des Hauts-de-France aux régions centrales jusqu'aux Pyrénées et la Méditerranée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.